les 5 psychanalystes de Freud. Aujourd'hui, le cas d'Aura avec Marie-Hélène Brousse, psychanalyste, maître de conférence à l'université de Paris 8, le département de psychanalyse fondé par Jacques Lacan, justement. Bonjour,
bonjour.
Marie-Hélène Brousse. À l'approche du 150e anniversaire de la naissance du fondateur de la psychanalyse, nous revenons avec vous, notamment Marie-Hélène Brousse, sur un ensemble canonique, les 5 psychanalyses qui comprennent donc le cas d'Aura, le petit Hans, l'homme Aura, le président Schreber et l'homme au loup. Chacun de ces cas a fait l'objet de nombreux commentaires et peut être considéré comme historique eu égard au développement de la psychanalyse, car il s'agit donc des premiers comptes rendus d'analyse conduite par Freud. Ils constituent évidemment des documents essentiels sur cette science à ses débuts. Alors le premier d'entre eux que nous allons examiner avec vous, Marie-Hélène Brousse, concerne donc une jeune femme qui présente des symptômes hystériques et dont l'histoire se déroule sur le fond d'un c'est Elisabeth Rudinesco qui le définit comme ça, d'un drame bourgeois, presque un vaudeville. Alors évidemment, on est à Vienne et il y faut la morbidité qui convient à l'atmosphère de la ville.
Oui, tout à fait. Alors, situons un peu l'époque. Freud a déjà écrit les études sur l'hystérie en 1895. Il a publié l'interprétation des rêves en 1900.
La Traumdeutung.
Absolument. Et il écrit le cas d'Aura en décembre 1899, dit-il, pour ne le publier qu'en 1905, accompagné des 4 autres analyses. Les 5 psychanalyses constituent le socle qui manquait aux 2 autres ouvrages précédents, à savoir l'expérience clinique des cures, puisque là, il s'agit, à l'exception du cas Schreber, il s'agit de cures menées dans le cadre de la méthode psychanalytique débutante. Et donc, ces cures amènent le matériau, le terme n'est pas très joli, mais...
Il est employé, hein.
Il est employé par Freud, mais disons plutôt l'expérience de la cure comme le lieu de production du savoir analytique en même temps que le lieu de l'évaluation de la guérison. Et le terme là non plus.
Mais d'ailleurs, à ce sujet, juste une parenthèse, Marie-Hélène Brousse, Freud, dès le départ de la cure, expose justement les difficultés qu'il y a à parler d'un cas clinique.
Absolument, c'est des difficultés qui d'ailleurs sont épistémologiquement tout à fait centrales pour la psychanalyse, encore aujourd'hui.
Il dit d'ailleurs, si naguère on m'a reproché de n'avoir rien dit sur mes malades, on va me blâmer maintenant d'en trop parler.
Voilà. Donc, la difficulté est de transmettre l'élaboration de savoir construite pendant la cure en respectant l'intimité et la dimension du secret. Qui, on le comprend bien, puisque vous parliez de drame bourgeois, un drame subjectif, le respect qu'on doit à l'intimité des sujets.
Alors son nom, évidemment, à cette jeune femme n'est pas Dora, mais Ida Bauer. Mm-hmm. Et donc elle vient le voir sur le conseil de son père, en fait. Est-ce qu'on peut un petit peu raconter
plus que sur le conseil, sur l'injonction paternelle. Et d'ailleurs, Freud considère que c'est une des raisons pour lesquelles la cure va être rapidement interrompue. C'est déjà une indication de l'entrée en analyse, on peut dire. On n'entre pas en analyse envoyé par contrainte par quelqu'un d'autre. Elle n'est pas totalement envoyée par contrainte, ça se voit, puisqu'elle reste 3 mois avec Freud, qu'il témoigne par le récit très précis des séances qu'il fait, de l'implication qu'elle a dans cette expérience subjective qu'elle mène avec lui. Mais enfin, il n'en reste pas moins que c'est parce que le père a été guéri d'une maladie organique qu'il avait par Freud, il a confiance en Freud et qu'il lui envoie sa fille. D'ailleurs, c'est un petit chef-d'œuvre, le récit de Freud, de la première entrevue avec le père. le père amenant sa fille, qui visiblement l'agace considérablement, l'inquiète énormément, en fait, et dérange totalement l'ordre familial.
Voilà, il faut juste résumer, Marilyn Brousse, le fait que cette jeune femme donc a subi, disons, une tentative de séduction de la part
de... Elle en a subi deux.
Deux, de la part donc du père de la maîtresse, du mari, on commence à entrer dans la complication.
Voilà, on est perdu dans la famille.
Oui, mais du mari donc, de la maîtresse de son père.
Voilà, mais je reviens sur le récit que le père fait, puisque le premier entretien se fait entre le père et Freud, puis le père envoie sa fille, qui vient voir Freud pendant 3 mois. Freud considère que c'est une analyse interrompue, qui n'est pas menée à son terme. C'est pas si sûr que ça qu'il faille aujourd'hui le considérer comme ça, mais enfin, on y reviendra.
Il lui donne dès le départ une durée déterminée.
Pas vraiment, il considère qu'elle s'en va avant la fin, au contraire.
Oui, mais il considère que c'est une analyse courte, non ?
Il le regrette.
Oui, oui.
Il le regrette, c'est ça la question d'ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, on pourrait considérer, à l'inverse de tout ce que le mouvement analytique a dit, en embrayant le pas à Freud, lequel Freud considère que c'est une analyse interrompue, inachevée, et d'ailleurs revient constamment sur la part qu'il prend lui-même à cet inachèvement, c'est-à-dire l'erreur dans le maniement du transfert qu'il a faite, voire même cherche la raison au niveau de ses préjugés qui l'ont amené à heurter Dora de manière à ce qu'elle s'en aille. Mais en fait, aujourd'hui, on pourrait peut-être considérer, et la fin de l'observation le montre, c'est-à-dire qu'elle revient le voir, que sa confiance en Freud reste intacte. Donc on pourrait peut-être plutôt considérer ça comme une utilisation moderne du dispositif analytique, à savoir un traitement court avec éventuellement de temps en temps un retour pour confirmer le résultat thérapeutique.
Je reviens sur l'histoire tout de même, si vous permettez, Marilyn Brousse, juste pour que l'on comprenne bien. Donc cette jeune femme a été séduite par un homme dont l'épouse est la maîtresse de son père. Et évidemment,
si vous présentez la chose comme ça, vous la présentez comme Dora. Ce qui montre déjà...
Personne ne la croit, sauf Freud.
Donc vous voyez bien que quand vous dites elle a été séduite par la maîtresse de son père... Elle l'a été de fait.
Mais, le mari.
Le mari de la maîtresse de son père... le terme maîtresse que vous utilisez, c'est le terme que Dora a introduit. Le père, lui, quand il vient parler à Freud, il nie
bien sûr
tout à fait que c'est sa maîtresse. Il dit que c'est une charmante amie qui le console de ses malheurs. Quant au mari de cette charmante amie, il est charmant aussi et il s'occupe fort bien de Dora. Donc, quand vous dites, et quand Elisabeth Rudinesco parle de drame bourgeois, ce qui a triomphé, c'est la vision de Dora. Alors ça, c'est le premier pas que Freud fait. J'ai relevé, pour réaborder ce texte, un qualificatif que Freud, à partir des premiers entretiens avec Dora, applique à Dora. La perspicace jeune fille. Voilà. Elle a compris. Elle a compris qu'on lui raconte des blagues, que depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis au moins ses 12 ans, elle en a 17-18 au moment où elle vient consulter, que cette femme charmante n'est rien d'autre que la maîtresse de son père, malheureux en ménage avec sa propre mère. Elle est d'ailleurs complètement d'accord avec son père pour condamner sa propre mère. Et elle est tout à fait convaincue, un peu dans un style, disons un peu persécutée, si je puis dire, à minima, qu'elle est l'enjeu d'un échange entre son père et Monsieur K. C'est-à-dire, Monsieur K prend Dora et son père prend la femme de Monsieur K. Elle a tort, au sens où il n'y a pas eu un pacte sadien entre les deux. Mais elle a complètement raison dans l'analyse qu'elle fait de la situation des chassés croisés du désir dans ce contexte familial feutré. Elle a parfaitement raison. Alors, quand vous utilisez le terme de maîtresse, il est clair que vous manifestez par là que le rapport que Dora a à la vérité, on va dire, qui sous-tend l'organisation familiale, il est de l'ordre de la vérité et elle l'imposera. Elle l'imposera aussi grâce à l'analyse qu'elle fait avec Freud.
Elle finira d'ailleurs effectivement par l'imposer.
C'est à ça que je fais référence.
L'éclosion de la vérité. C'est-à-dire que les deux hommes finalement reconnaîtront la réalité des
faits.
Tout
à fait. Voilà. Mais alors, ce qui soucie
Freud... À l'heure où elle arrive chez Freud, elle est considérée comme une malade, hystérique.
Mais elle l'est. Voilà. C'est alors ça le problème.
Il y a des symptômes malgré tout.
C'est ça le problème, c'est qu'elle l'est.
Et qui remonte à sa mère d'ailleurs. Sa mère aussi est affectée d'un certain nombre de troubles.
Je crois que c'est plus intéressant d'être attentif à l'extrême précision freudienne quant à l'histoire de la maladie et à l'histoire des symptômes. On voit là Freud médecin de manière claire. Voilà, à 8 ans, on a des premiers signes de symptômes de névrose infantile. À 12 ans, on a l'apparition de migraines et de toux nerveuses ainsi que du symptôme d'aphonie. Et à 17-18 ans, on a vraiment un tableau clinique qui explose avec un évitement des relations sociales, des fatigues, un sentiment de dégoût de la vie, une lettre qu'elle, certes, qui est un appel, mais une lettre par laquelle elle menace de suicider. Et c'est dans ce contexte d'éclosion symptomatique et d'extrême souffrance de la patiente, parce qu'il ne faudrait pas faire de Dora une hystérique qui manipule son monde. Dora, elle souffre. Elle est atteinte de symptômes authentiquement à la fois psychique et en même temps somatique. Et Freud entend ça.
Alors justement, si vous voulez bien, Marie-Hélène Brousse, on va parler de l'hystérie, puisque c'est de là que vient Freud, en fait. Il s'est intéressé à ce que Marthe Robert appelait l'irritante question de l'hystérie, cette hystérie qui finalement invalidait toute démarche médicale qu'on essayait d'avoir avec elle. Donc, on va reparler de ça, parce que c'est très important. Mais auparavant, si vous voulez bien, écoutons la voix de Sigmund Freud. C'était en 1938.
I started my professional activity as a neurologist.
J'ai débuté ma vie professionnelle en tant que neurologue. J'ai essayé de soulager mes patients névrosés. J'ai découvert des faits nouveaux et importants sur l'inconscient. De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse. J'ai dû payer le prix fort pour ce petit bout de chance. La résistance a été forte et implacable. Finalement, j'ai réussi, mais la lutte n'est pas encore finie.
Voilà, donc Sigmund Freud qui parle ici en anglais en 1938 après son départ de Vienne. La question qui se pose justement à propos de l'hystérie, donc l'hystérie, la grande question qui se pose à Freud dès le départ, dans le cas de Dora, donc puisque on l'a montré, elle a parfaitement raison dans ce qu'elle dit. Si elle a raison, et pourquoi est-elle malade?
C'est vraiment là que réside l'essence même de l'hystérie. C'est-à-dire que son symptôme, c'est ce qui articule la vérité sur la situation, là en l'occurrence, ce à quoi fait référence Freud quand il dit la perspicace jeune fille, et en même temps, la souffrance, c'est-à-dire le conflit psychique, le conflit inconscient, qui lui est articulé à la dimension de la sexualité. Qui est vraiment la thèse que Freud, là on vient de l'entendre dans l'extrait, quand il dit qu'il a triomphé, là-dessus. Mmh. C'est-à-dire en montrant l'articulation qu'il y a entre la dimension du symptôme psychique et la dimension de la sexualité, à entendre de la façon...
Freudienne.
Freudienne, c'est-à-dire à entendre d'une manière généralisée. Mmh. Donc, c'est autour du symptôme de Dora, comme à la fois porteur d'une vérité et en même temps d'une part de satisfaction, d'une part, on dira nous, de jouissance, c'est sur cette articulation du symptôme que l'interprétation analytique va porter. Et qu'est-ce que fait Freud ? Contrairement au père de Dora, il ne dit pas « tu nous racontes des mensonges », il lui dit bah, « vous avez parfaitement raison ». Mais ma chère, n'avez-vous pas vous-même contribué à ce désordre dont vous me parlez ? C'est Lacan qui reprend ça comme ça, évidemment. Et il y a un développement à quoi Dora consent, où elle s'aperçoit, faisant exactement la même chose que les gens auxquels elle adresse ses reproches, que son père, que Monsieur K, que Madame K. Et donc cette espèce de duplicité qu'elle découvre, qui se découvre à elle-même, va être pour elle aussi une clé d'interprétation qui va lui permettre de... On voit certains symptômes tomber. Par exemple, la toux nerveuse tombe après une interprétation de Freud. Par exemple, le dégoût tombe après une interprétation de Freud. Alors, c'est le cas, puisqu'il faut quand même l'évoquer, ça. C'est le cas d'hystérie qui va donner lieu à une modélisation de la structure hystérique.
Voilà, parce que c'est une véritable leçon de psychanalyse, mais en même temps, Marie-Hélène Brousse, c'est vrai que c'est la première fois tout de même que Freud retranscrit et publie donc le texte d'une analyse, donc il sait très bien que ça aura une valeur didactique.
Absolument. Alors il explique pourquoi le cas d'Aura. Il dit d'une part que la durée courte lui permet d'être extrêmement exhaustif, et ce souci d'exhaustivité est en même temps un souci à la fois, on va dire, épistémologique et éthique, au sens ne pas sélectionner dans le matériel d'une manière tendancieuse, donc l'exhaustivité rendue possible par la durée, et d'autre part, chose tout à fait centrale, le travail avec Dora, le travail analytique avec Dora, tourne autour de deux grands rêves.
Oui.
Et donc ça lui permet de faire l'articulation entre la méthode analytique à l'œuvre dans l'expérience d'une cure et en même temps, l'interprétation des rêves, enfin son ouvrage théorique majeur sur l'inconscient.
Et puis les études sur l'hystérie qui sont qui sont situées d'ailleurs le livre entre les deux.
Mais on voit bien que ce qui l'intéresse beaucoup, c'est de montrer comment l'interprétation des rêves en tant que, on va dire, discipline presque scientifique, puisque lui c'est ainsi qu'il le considère, et d'ailleurs il n'a pas tort. Comment cette interprétation des rêves participe, est utilisée, est à l'œuvre dans le traitement thérapeutique. C'est-à-dire articuler le savoir théorique de la psychanalyse avec l'orientation thérapeutique qui est la sienne. Montrer comment un rêve, en tant que voie d'accès à l'inconscient, permet de toucher la racine du symptôme, c'est-à-dire à la fois son rapport avec les mots, puisqu'un rêve, c'est d'abord un récit de rêve en analyse. Ce n'est pas une expérience onirique. Un rêve, c'est un récit, donc un texte. Mmh. Et on voit très bien que la position de Freud par rapport aux rêves de Dora, c'est de les considérer d'abord comme des textes. Mmh. Avec la plus grande attention portée à leur construction en phrases, leur construction à partir de certains mots, l'étude de déplacement de certains mots, de leur répétition, et comment à partir de la transformation du rêve en texte, il produit l'interprétation qui a un effet thérapeutique.
Il était lacanien avant la lettre, Marie-Hélène Brousse.
Je crois qu'on peut dire aussi que c'est Lacan qui était freudien.
Voilà.
Véritablement freudien, enfin. Enfin freudien.
Le rêve a aussi évidemment cette valeur de pallier les lacunes de la mémoire, hein, surtout lorsqu'il s'agit effectivement de scènes infantiles et de fournir une explication aux symptômes. Mais on a évoqué aussi la fortune du cas ensuite dans la réflexion ultérieure des psychanalystes. C'est notamment le cas de Jacques Lacan, dont je vous propose d'écouter justement un extrait du séminaire.
Ce que l'hystérique veut, je dis ça pour ceux qui n'ont pas la vocation, il doit y en avoir beaucoup, c'est un maître, c'est tout à fait clair. C'est même au point qu'il faut se poser la question si ce n'est pas de là qu'est partie l'invention du maître. Cela bouclerait élégamment ce que nous sommes en train de tracer. Elle veut un maître. C'est là ce qui gît dans le petit coin en haut et à droite, pour ne pas le nommer autrement. Elle veut que l'autre soit un maître, qu'il sache beaucoup de choses, mais tout de même pas qu'il en sache assez pour ne pas croire que c'est elle qui est le prix suprême de tout son savoir. Autrement dit, elle veut un maître sur lequel elle règne. Elle règne et il ne gouverne pas.
Un extrait donc du séminaire de Jacques Lacan, le livre 17, oui, l'envers de la psychanalyse, au-delà du complexe d'Oedipe, et donc qui parle spécifiquement là du cas Dora.
Oui, alors c'est d'ailleurs, peut-être vous avez été sensible, on pourrait reprendre ce que Lacan dit là pour décrire la position de Dora par rapport à Freud.
Elle règne et il ne gouverne
elle
pas.
Elle veut un maître. Effectivement, elle vient voir Freud, elle lui explique tout ça, elle écoute ses interprétations, qui sont d'ailleurs, à cette époque-là, à la fois des interprétations que nous appelons signifiantes, c'est-à-dire qui portent sur tel terme qu'elle utilise, mais qui sont aussi un débat assez musclé entre l'analysante qu'elle est et l'analyste qu'il est. Elle veut donc un maître, elle l'a, en la personne de Freud, et elle le quitte. C'est-à-dire que c'est elle, avec son discours à elle, la conclusion qu'elle choisit, qui dirige le traitement, on peut dire. C'est ce que Freud, en tout cas, constate, en le regrettant d'ailleurs, et en s'apercevant pourquoi il s'est trouvé dans le transfert mis dans cette position de maître. S'il ne s'était pas mis dans cette position de maître, c'est-à-dire s'il n'avait pas, à un moment donné, épousé le préjugé selon lequel elle aime Monsieur K fondamentalement, et c'est ça qu'elle refuse, s'il s'était déplacé légèrement, nul doute que la cure aurait été plus loin. Mais Freud reconnaît que, à cette époque-là, il était atteint d'un préjugé face aux relations d'apparence homosexuelle qui sont souvent présentes dans l'hystérie, puisque le cas Dora a permis de centrer quand même la problématique hystérique, non seulement à partir de ce que Lacan vient de dire là, à savoir elle veut un maître sur lequel elle gouverne, sur lequel elle règne sans gouverner, pardon. Gouverner ne l'intéresse pas du tout. Mais l'autre élément, c'est évidemment l'autre femme. L'importance de l'autre femme dans l'hystérie, c'est là comme où... le contrepoint au maître.
Alors Freud, il faut peut-être le rappeler, Marie-Hélène Brousse est là un peu gênée aux entournures par l'un des premiers reproches que l'on fait à la psychanalyse à ses débuts, c'est-à-dire finalement de mettre dans la tête des jeunes filles des idées obscènes.
Alors oui, ça, il s'en défend beaucoup. Alors c'est vrai que là, le texte... Le texte tel qu'il retranscrit la parole de Dora montre que vraiment les jeunes filles, y compris de cette époque, n'étaient quand même pas les imbéciles que le maître victorien pensait. Dora, elle lui dit qu'elle sait, qu'elle a lu, elle sait ce que c'est qu'une fellation.
Elle a lu d'ailleurs, petite parenthèse, un ouvrage dédié à ces questions, justement, que lui a passé.
Madame K,
la maîtresse de son père.
Oui, qui est sa grande, son mentor dans quoi ? Son mentor sur le point qui intéresse Dora et qui est le centre de l'intérêt de l'hystérique. On voit son côté dénoncer la vérité, faire tomber le maître, montrer que le maître est castré, que de toutes les façons il jouit comme un porc, on peut dire, mais que il est un menteur. Il y a ce côté-là, mais l'autre côté, le côté qui l'intéresse elle, c'est-à-dire le côté sur lequel elle se leurre et qui fait fondement de son symptôme, c'est quand même l'autre femme. Le mystère de la féminité, qui lui est, sa propre féminité lui étant à elle-même inaccessible. Donc, cette féminité inaccessible, la question qu'est-ce qu'une femme, qui est au centre de la névrose hystérique, par opposition à la névrose obsessionnelle, qui est au centre de suis-je mort ou vivant ? Bon, c'est les deux grandes questions. Toutes articulées en termes de différences signifiantes, c'est-à-dire la différence entre mort d'un côté vivant, un binaire, et du côté hystérique, la différence entre homme et femme, avec la difficulté de structure, si je puis dire, de définir le féminin. D'où la référence dans le deuxième rêve à la Madone, D'où ce que Freud note et qui lui dit d'ailleurs, mais enfin cette Madame K, elle vous a fait beaucoup de mal, elle a raconté de vous des horreurs, et vous n'êtes que compliments sur elle, qu'adoration, etc. Donc l'amour de Dora va, le désir de Dora va vers Madame K en tant qu'elle incarne ce que Dora n'arrive pas à considérer, sa propre féminité.
Voilà, on arrive au terme de l'émission. Vous souhaitiez rappeler justement à propos de l'importance de l'hystérique aujourd'hui, justement dans la nomenclature récente qu'on propose donc à la psychiatrie, l'hystérie a disparu.
Absolument, l'hystérie a disparu du DSM. Qui est donc le manuel qui permet de faire les diagnostics en psychiatrie au niveau mondial. Alors, on peut se demander pourquoi. Évidemment que les hystériques n'ont pas disparu. Que des phénomènes d'épidémie hystérique, parce que ça, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais l'hystérie, c'est un trouble de l'identification. Donc, il y a des phénomènes d'épidémie de symptômes pour faire identité. Mais en fait, la question dite de la désapparition de l'hystérie peut être évoquée autrement, grâce à l'apport de Lacan. Lacan transforme l'hystérie en un discours.
C'est lui d'ailleurs qui a cette
d'une
formule.
D'une névrose à un discours.
L'hystérique comme le héros de la vérité. Et finalement, absolument, le Cadora l'illustre parfaitement, puisque c'est absolument finalement elle qui met un terme à sa psychanalyse et qui dit à tout le monde la vérité.
C'est ça. Alors, l'hystérie étant devenue un discours, un mode de discours qui a pignon sur rue, qui se fait entendre, rien d'étonnant à ce qu'il n'apparaisse plus à personne comme pathologique. Voilà.
Bon, écoutez, on n'aura pas eu le temps de parler d'un aspect important, mais je pense qu'au cours des jours qui viennent, on prendra ce temps d'un phénomène qui apparaît pour la première fois dans cette psychanalyse, c'est la question du transfert, qui est très importante.
Essentielle, oui.
Et pour laquelle Freud, visiblement, en est encore au tâtonnement, disons, du chercheur à ses débuts. Je vous remercie, Marie-Hélène Brousse. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, maître de conférences à l'Université Paris 8.